Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir le sens de deux vieilles expressions. Leur contexte est jamais très rigolo, puisqu'on les utilise soit quand tout va mal, surtout au travail, soit quand on a une mauvaise santé. Alors, si vous êtes parés, on va explorer aujourd'hui les origines de « être sur la sellette » et « être malade comme un chien ».
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Sous l'Ancien Régime, on avait l'habitude de faire subir à un accusé un dernier long interrogatoire avant que la sentence des juges ne tombe. C'est déjà une situation inconfortable, mais en plus, on l'installait sur un étroit siège de bois inconfortable et qui le mettait dans une posture d'infériorité. D'autant plus qu'ils étaient souvent chargés de fer au pied. Sur ce tabouret très bas et sans dossier, le prévenu ne pouvait pas s'adosser et se retrouvait dans une position de faiblesse, avec le dos courbé, en face des juges qui le dominaient de toute leur hauteur. Le siège, en latin « cella », se dit « selle » en français. Et donc, ce petit siège, humiliant, c'était la sellette. Ce type d'interrogatoire a été décrit par le romancier et académicien Antoine Furtière dans son « Dictionnaire universel » de 1690. Et on y retrouve notre sellette. La procédure est réservée au procès des grands criminels. Très humiliant et pas vraiment compatible avec l'esprit des Lumières, il a été aboli par Louis XVI en 1788, en même temps que la question préalable, une torture qui poussait un condamné à dénoncer ses complices. Le garde des Sceaux de l'époque fait un discours pour annoncer la décision royale. Pour lui, la sellette est une flétrissure, une injustice. En effet, si jamais l'accusé est innocent, alors la justice devrait interdire de l'humilier. Et même s'il est coupable, alors c'est le sentiment d'humanité qui devrait nous retenir de lui faire du mal pour rien. Aujourd'hui, la sellette a un remplaçant, le box des accusés. Et oui, on s'est adouci, mais on délimite très clairement l'espace de l'accusé, séparé des autres citoyens, parfois par des cages de verre, voire des barreaux. Ce qui, selon certains, pose un peu problème avec la présomption d'innocence. En tout cas, comme on n'utilise plus de sellette, l'expression a changé de sens. Mais pas trop, au final. Être sur la sellette, c'est être mis en cause, exposé à la critique, au jugement. Ou alors, c'est simplement être dans une position inconfortable. Mais le plus souvent, ça veut dire qu'on risque de perdre quelque chose, comme son travail, par exemple. Et le travail, c'est la santé. Un bien si précieux que pour en parler, on a choisi d'utiliser le meilleur ami de l'homme, le copain à quatre pattes idéal, le chien. Et du calme la team chat, hein, vous pouvez rester. D'ailleurs, comparons un petit peu les deux. Certains d'entre vous ont peut-être un chien, un chat, les deux, voire pourquoi pas des poules, des lapins et des chevaux. Eh ben, le chien est pas plus souvent malade que les autres. Alors, d'où ça vient l'expression « malade comme un chien » ? J'ai bien cherché, et en fait, il y a un paquet d'expressions qui associent le chien à quelque chose de négatif. Par exemple, avoir un air de chien battu, un caractère de chien, un mal de chien, une vie de chien. En fait, c'est que si aujourd'hui on considère le chien comme un vrai ami, eh bien ça n'a pas toujours été le cas, hein, loin de là. Longtemps très mal considéré et totalement livré à lui-même, il y a encore deux ou trois siècles, les chiens étaient mal vus et on ne se souciait absolument pas de leur bien-être. Pas question de les choyer et encore moins de les laisser entrer dans les habitations. Les chiens étaient là pour travailler, pour garder la maison, surveiller le bétail ou chasser. À la fin de leur vie ou s'ils tombaient malades, leur maître n'avait en général pas l'intention de les soigner et les pauvres canidés mouraient seuls, parfois dans d'atroces souffrances, dans l'indifférence générale. Mais pas besoin de remonter aussi loin d'ailleurs, en fait ça dépend d'où on regarde sur le globe. Encore aujourd'hui, sur l'île de la Réunion, donc quand même en France, les chiens errants et divagants posent un vrai problème. Et c'est logique, vu qu'hier encore, la loi ne prévoyait pas grand-chose. Allez, Je vous laisse deviner, hein. De quand date l'amendement qui définit les animaux, et donc les chiens, comme des êtres vivants doués de sensibilité? Donc pas comme des foutus meubles, hein. Allez, de quand? Eh bien, du 16 février 2015 seulement. Alors, bien sûr, les mentalités avaient déjà changé avant ça, surtout selon les classes sociales. Dès l'Antiquité et le Moyen-Âge, les plus riches avaient des chiens d'apparat, de chasse, de race. Et on ne compte pas le nombre de tombeaux médiévaux qui montrent le chien comme un gardien fidèle. Et on se doute que les chiens chargés de protéger une grande propriété de la Rome antique étaient plutôt bien nourris. Mais pour l'immense majorité de la population, le chien n'était vu que pour son utilité et pas pour son affection. À la première famine, non seulement on ne le nourrit plus, mais s'il faut, on le mange. Avec tous les abandons et les errances, les chiens contractant toutes sortes de maladies fuyaient les hommes. Et c'est ça, être malade comme un chien. C'est se sentir tellement mal qu'on a besoin de s'isoler lorsque la douleur est trop importante. Crever comme un chien sous-entend mourir seul. Et traiter quelqu'un comme un chien, c'est le rejeter, le séparer du reste de la société. C'est toujours la même idée qui revient. Si vous habitez en ville et que vous n'êtes pas aveugle, vous connaissez tous ceux qui dorment sur le trottoir. Chien ou humain, on leur a réservé le même sort, la solitude. Et ça, c'est quand même vachement triste. Merci à Éponine Le Galliot pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.